Salut à tous, bienvenue dans les jardinières et bonjour Sarah.
Bonjour Stéphanie, aujourd'hui nous accueillons notre cher paysagiste de Queuve, Jean-Pierre Ribaud, bonjour.
Bonjour tout le monde.
En mai, fais ce qu'il te plaît, qu'il disait, les jardinières aiment s'occuper de vos jardins, plantes, intérieurs ou encore de vos serres. Bref, tout ce qui demande d'avoir un minimum la main verte et surtout qui nécessite des conseils avisés de notre professionnel Jean-Pierre Ribaud.
Et pour profiter de son savoir, c'est au 0901 70 20 20 que ça se passe. Un simple appel pour 36 centimes la minute et vous voilà prêt pour mettre la main à la pâte. Et vous pouvez déjà vous servir de vos doigts pour tapoter sur votre téléphone si vous préférez ne pas parler. Vous écrivez le mot « jardin », un espace avant votre question et vous envoyez le tout au 939. Et en plus du SMS, vous pouvez également nous écrire un formulaire sous l'onglet « Émission, questions aux jardinières ». Et comme toujours, donnez-nous un maximum de détails sur votre problème de jardinage pour que la réponse soit des plus précises.
Et bien c'est parti pour la première émission de mai des jardinières.
Les jardinières. Sarah et Stéphanie.
Alors Jean-Pierre, première question, on entend toujours parler de ces saintes glaces, mais qu'est-ce que c'est exactement et surtout qu'est-ce qu'on peut faire, à quoi peut-on faire attention quand ça arrive dans nos régions ?
Oui, alors bien sûr, les saintes glaces, c'est une période de début mai. Il faut regarder dans les agendas exactement les journées qui se comportent dans ces saintes glaces. On dit que c'est les dernières gelées qui peuvent survenir dans notre milieu chez nous. Et puis, c'est la date butoir sur laquelle on peut se dire on va commencer les semis, les plantations dans les potagers. Il est vrai que si vous mettez des plantes de tomates ou de courge, de concombre, des plantes qui sont sujets au gel avant ces saintes glaces, il y a de fortes risques qu'elles vont ramasser ces gelées blanches tardives et puis que vous aurez des dégâts dans les potagers.
Donc les saintes glaces, finalement, c'est mieux de commencer à jardiner après.
Au-delà.
C'est un petit peu la date butoir.
Tout à fait. C'est surtout concernant les potagers, parce qu'après, dans les aménagements extérieurs, on ne se tient pas compte par rapport à ces saintes glaces.
On a Loïc Debuy qui nous a écrit « Est-ce que si j'achète des graminées résistantes à la sécheresse, j'aurai moins besoin d'arroser mon gazon ?»
Oui, alors bien sûr, bonjour Loïc. Dans les aménagements paysagers, on a vraiment plusieurs types de semences de pelouse. Il est des semences vraiment adaptées à des situations très arides et très sèches. Si vous mettez un gazon familial standard sur une surface exposée plein sud où il y a peu de terre et puis une surface rocailleuse, vous aurez vraiment des soucis d'avoir une belle pelouse. Je ne peux pas vous donner de nom de produits ici à l'antenne, mais vous trouvez dans le commerce vraiment des semences adaptées à des surfaces arides.
Donc même si on n'est pas dans une zone géographique spécialement aride, on peut quand même mettre ce genre de graminée.
Alors oui, mais la pelouse elle est un peu moins jolie, elle est un peu moins fine par rapport à un gazon de famille, comme on dit. On adapte un peu les semences par rapport au terrain en tant que professionnel, c'est sûr. Parce que sinon, on a plein de problèmes derrière. Le gazon familial qui serait sur une surface aride, où c'est très séchard, elle va se trouver engorgée de mauvaises herbes, parce que justement les graminées vont s'éclaircir par le fait qu'elles souffrent du sec. Tandis que si vous mettez ces semences qui sont adaptées à ces surfaces sèches, le gazon va rester beaucoup plus dense et puis vous aurez beaucoup moins d'attaques de mauvaises herbes dans votre pelouse.
On a une question de Nancy qui nous dit qu'elle a déménagé cet hiver et qu'elle souhaite à nouveau cultiver un potager. Du coup, comment faire pour commencer, comme pour ouvrir entre guillemets, un potager dans un gazon et comment surtout se débarrasser de la mauvaise herbe, surtout qu'en fait le temps presse parce qu'elle a tendu une bâche en espérant étouffer le gazon. Mais ça a un petit peu fait l'effet inverse. Alors Jean-Pierre, comment pouvez-vous aider Nancy sur ce problème de potager ?
Alors bonjour Nancy, oui bien sûr, la bâche c'est une solution qui peut être adaptée à une pelouse quand vous voulez la faire périr pour ouvrir un potager. Il faut que ce soit une bâche qui soit noire évidemment pour étouffer la graminée qui se trouve en dessous. En tout cas pas blanche, en tout cas pas quelque chose d'aéré parce que sinon il y a même la graminée qui pourra continuer de se développer par-dessous et traverser votre bâche. Ensuite, si c'est très pressant puis que la graminée n'a pas péri, la meilleure des solutions, c'est de décaper donc les mottes de gazon en enlevant un peu les racines. Et puis après, il faut faire un bon labourage avec une bêche, un bon larronnage, comme on dit, ou un bon coup de motoculteur pour travailler le sol. Peut-être amener un petit peu de matériel type compost ou terreau de jardin pour améliorer le terrain. Et puis après, elle peut commencer de planter et de semer.
Donc il n'y a pas vraiment de délai, on va dire, si elle le fait maintenant, ce n'est pas du tout trop tard.
Non, pas de problème, non. Après, on évite quand même les herbicides totaux sur ces surfaces, sachant qu'il vient du potager derrière.
On a Anna de Failly qui nous demande « J'ai une aloe vera en pot et je me pose des questions quant à son emplacement. Est-ce une plante qui a besoin de beaucoup de lumière ?»
Oui, alors l'aloe, c'est quand même quelque chose qui demande un peu de luminosité, un petit peu d'humidité. Il faut quand même la mettre sur un endroit côté fenêtre ou si c'est sur l'extérieur. Vous voyez vraiment où il y a de la luminosité, bien sûr.
On a reçu une autre question. Alors celle-ci concerne les graines de tomates à planter dans une bouteille en plastique recyclé. Alors selon vous, Jean-Pierre, est-ce que le plastique de la bouteille peut nuire à la qualité de la tomate? En tant que professionnel, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez des petits conseils pour que ça marche ou finalement c'est mieux de le faire dans un jardin?
Non, alors ça peut se faire, bien sûr. C'est au même titre que le produit qui se trouvera dans votre bouteille de pète quand vous achetez votre limonade. Mais non, il ne faut juste pas oublier de faire un trou dans le fond de la bouteille pour évacuer le surplus d'eau à l'arrosage, parce que sinon, vous allez avoir plutôt des plantes humides qui veulent se développer là-dedans, bien sûr. Et puis, non, c'est faisable. Après, il y a un risque de ne pas pouvoir la laisser très, très longtemps dans cette bouteille de pète, parce que, étant donné que le volume de terreau qui se trouve dans la bouteille est restreint, à un moment donné, la plante va souffrir de cet espace trop petit, quoi.
Et c'est quoi l'utilité finalement de faire ça dans une bouteille en plastique, à part pour l'expérience, on va dire?
Alors je dirais au début, c'est une question de température, hein, bien sûr. Le PET, il va vous donner de la chaleur sur la tomate. On sait que la tomate, c'est une plante qui raffole de température élevée. Après, c'est peut-être aussi pour compenser le manque de pot, peut-être. Parce que bien sûr, les horticulteurs, ils cultivent ça dans des pots plastiques, donc c'est pas de souci. Mais tôt ou tard, elle devra la transplanter pour la mettre dans le milieu potager.
Merci Jean-Pierre, vous êtes avec nous jusqu'à 8h et vous pouvez poser toutes vos questions en appelant 0901 70 20 20 pour 36 centimes la minute. Vous pouvez également nous écrire un SMS au 939, vous tapez le mot jardin, un espace, puis votre question. Il y a encore le formulaire internet à votre disposition que vous trouvez sous l'onglet émission questions aux jardinières.
7h, 8h, les jardinières.
On a reçu une question de Chantal de Palaisieux qui nous dit qu'elle baptise leur fils le 1er juillet et ils aimeraient bien planter un arbre ce jour-là avec la famille pour faire une petite cérémonie. Un arbre qui ne prendra pas trop de place par la suite, donc pas trop de hauteur et avec des racines pas trop profondes et pas d'essence qu'ils ont déjà. Donc ils ont déjà un hibiscus, un magnolia, un cerisier japonais, un érable japonais, un laurier du Portugal, un forsythia, des lilas, des potentilles, des bigognes et cornues ainsi que noisetiers. Ça fait une belle panoplie déjà d'arbres présents dans leur jardin. Jean-Pierre, est-ce que vous pouvez donner un conseil à Chantal qui aimerait planter cet arbre le 1er juillet pour le baptême de son fils?
Oui, bien sûr. Bonjour Chantal. Dans la panoplie que vous avez, il en manque aussi une quantité, évidemment. Alors après, c'est peut-être selon le type de couleur de fleurs que vous voudrez ou à la période à laquelle vous voudrez que ce végétal se mette à fleurir.
Une fois par mois, oui, c'est vrai qu'elle précisait, j'ai oublié de vous le dire, donc pas de fruitier qui fleurit au moins une fois par année et qui aime l'ombre.
Alors il n'y a pas de souci. Si vous voulez, si Chantal souhaite une plante qui se met à fleurir tout de suite en début d'année, il y a par exemple la Mamelis mollis, il fleurit jaune, il fleurit souvent quand il est encore sous la neige, donc il est assez fantastique à voir. Après, on peut voir dans les viornes, il y a la Rhytidophyllum qui va fleurir rose dans le courant du mois de fin février, début mars. Après, vous avez à cette période ici aussi dans les viornes, la Carcephalum, c'est un gros pompon très blanc, hyper parfumé, qui parfume presque tout le potager, donc il est super à planter. Après, sur la période, vous avez les Philadelphus, vous avez les Deutzia. Oui, il y a vraiment, ou les Rubes, ou sur l'arrière-saison, vous avez les Banania. Enfin, il y a vraiment un choix assez considérable. Simplement, bien sûr, elle pourra le planter au mois de juillet. Il faudra juste porter garde à faire un bon trou pour la plantation, le mettre assez profond au niveau du sol pour qu'il ne souffre pas des périodes caniculaires, et puis le suivre au niveau de l'arrosage. Et puis là, c'est voué à une garantie de reprise sans problème.
Et justement, au niveau de l'arrosage, tous ces arbres s'arrosent différemment, j'imagine?
Alors tous, ça veut dire que les derniers plantés devront être arrosés sur des périodes très sèches. Ceux qui sont déjà en place depuis 3-4 ans, ils auront fait un système racinaire assez important pour se prémunir par rapport à ça.
Merci Jean-Pierre. Après avoir agrandi la famille de Chantal, Samy aimerait nettoyer. Alors comment nettoyer efficacement tout le pollen qui s'installe sur mes dalles gravillon? Est-ce vrai que le nettoyeur haute pression consomme beaucoup d'eau?
Oh non, Bonjour. Non, je dirais que c'est le moins gourmand en eau par rapport à un jet standard. Après, il existe sur le marché des brosses rotatives qu'on peut mettre à la place de la buse de Karcher. C'est très très efficace, c'est pas trop gourmand au niveau de l'énergie, au niveau de l'eau. C'est pas très agressif non plus au niveau du dallage. Il faut savoir que si vous prenez un Karcher par exemple avec une buse rotative, il y a des risques que ça vous perfore encore le dallage que vous avez, vous évite les pores du béton et puis ça va amplifier les problèmes dans le temps parce que ces pores vont toujours se remplir de plus de mousse, de lichen et puis de poussière. Par contre, les buses rotatives, elles sont moins agressives et puis elles font un super boulot.
On a reçu, Jean-Pierre, une question de Werner de Courtetel qui nous écrit par formulaire. Il nous dit qu'il a un pied de rhubarbe et qu'il aimerait le séparer en deux pour en replanter un ailleurs. Est-ce que c'est bien de le faire et surtout comment le faire et comment s'y prendre ?
Oui, bonjour Werner, bien sûr que c'est faisable. C'est juste la très mauvaise période maintenant parce qu'on est en période de végétation. Elle est en plein développement, cette rhubarbe. Il faudra attendre cet automne et puis vous prenez une bêche. Si vous laissez la moitié de votre plant à l'emplacement où il est, vous prenez la bêche, vous fendez en deux votre pied de rhubarbe, vous prenez assez loin à l'extérieur pour prendre un maximum de racines et puis vous le replantez où vous le voulez, il n'y a pas de problème, ça redémarre très bien.
Même en eau, donc même quand on le fait après l'été.
Ah, il faut le faire après l'été.
Il faut le faire après l'été.
En période de végétation morte. Ça veut dire à partir du mois de novembre jusqu'au mois de mars, pas de problème. Au-delà, faut plus toucher.
Et souvent, on voit la rhubarbe qui revient automatiquement après l'hiver. Donc c'est vrai que c'est pas un fruit ou un légume. Est-ce que c'est un fruit ou un légume, la rhubarbe ?
Non, je dirais un légume. C'est vraiment une plante vivace.
Ouais,
ça veut dire qu'elle revient annuellement sans souci, oui. Et puis après, si pour entretenir votre pied de rhubarbe, vous voulez le renforcer, il faut lui couper les ombelles florales qui arrivent dans le mois de juin-juillet. Parce que sinon, la rampe florale, elle va prendre énormément d'énergie au rhizome, en fait. Mm-hmm. Et puis l'année d'après, elle va se développer un peu moins.
Quelles sont les plantes qu'on peut diviser en ce moment ?
Rien. Rien, parce qu'on est vraiment en période de végétation. On ne peut même plus faire de transplantation. On peut faire effectivement des plantations de tout ce qui est plante en pot. Par contre, vous ne pouvez plus obtenir dans les pépinières de plantes qui se trouvent en motte. Surtout pas de la racine nue, parce qu'on est vraiment en pleine végétation. C'est le pire des moments pour faire des choses comme ça. Uniquement des plantations de plantes en pot.
Et nous avons une question de quelqu'un qui n'a pas précisé son prénom, mais ce n'est pas grave, qui nous dit « J'avais l'habitude de laisser mon paysagiste s'occuper de scarifier la pelouse. » Et cette année, eh bien, cette personne s'est dit qu'elle allait s'en occuper elle-même. Quelles sont les erreurs du débutant à éviter, Jean-Pierre ?
Bon, j'espère que ce n'était pas moi le paysagiste, mais...
Je ne pense pas.
C'est juste pour faire des économies, je ne pensais pas contre vous. Hein.
Elle ne se serait pas séparée de vous.
J'embête. Quelles sont les erreurs à ne pas commettre au démarrage ? Ça dépend un peu de la pelouse. Si vous avez une pelouse qui est vraiment gorgée de mousse, puis que vous voulez régénérer votre pelouse, nous, on a là pour habitude de passer une fois la scarification, ramasser le déchet. Après, on fait un sursemis de la surface en question avec une semence adaptée. On repasse le scarificateur et puis on laisse le déchet de cette scarification par-dessus la pelouse, ce qui va nous permettre de faire un mulchi, comme on appelle, sur les graines, ce qui va faire ombrage et puis va faciliter l'enracinement de la nouvelle pelouse. Après, si c'est une pelouse qui n'est pas trop, trop gorgée de mousse et puis qui a plus de feutre, hein, ça veut dire de branches, d'herbes sèches au niveau du sol, là, vous pouvez passer une fois ou deux fois votre scarificateur selon la densité que vous avez de ce mulchi. Après, il faut vraiment, évidemment, y mettre un engrais adapté à la situation. Parce que si vous allégez la couverture de votre sol et puis que vous ne mettez pas d'engrais, ce qui va se passer, c'est que les mauvaises herbes vont prendre le dessus à votre pelouse. Après, vous devrez réintervenir avec un phyto. Donc, vraiment une dose d'engrais dense par rapport à la surface où vous voulez régénérer votre pelouse, pas l'oublier. Après, au niveau scarification, il n'y a pas vraiment de problème particulier.
Merci Jean-Pierre Ribaud, vous êtes avec nous jusqu'à 8h. On va faire une pause musicale et bien sûr après il y a déjà un appel en attente pour vous. Et vous pouvez vous aussi appeler au 0901 70 20 20 pour 36 centimes la minute et pour poser vos questions à Jean-Pierre. Vous pouvez aussi nous écrire un SMS au 939, vous tapez le mot jardin, un espace, puis votre question. Et il y a aussi le formulaire internet sous l'onglet émission questions jardinières sur notre site. A tout de suite.
7h, 8h. Les jardinières.
Jusqu'à 8h, les jardinières répondent à vos questions. Jean-Pierre Ribaud, paysagiste à Queuve, attend vos appels avec impatience.
Le numéro, c'est le 0901 70 20 20 pour 36 centimes la minute. Vous pourrez discuter avec nous de votre cas. Ne vous gênez pas, que vous soyez débutant ou déjà fin connaisseur, nous sommes là pour vous et vous pouvez nous poser votre question par écrit aussi au 939 en commençant votre message par le mot jardin et un espace, et puis votre question, ou par formulaire internet sous l'onglet émissions questions aux jardinières sur notre site. N'hésitez pas à bien développer votre question pour que Jean-Pierre Ribaud puisse vous répondre au mieux. Et pendant la pause, Jean-Pierre, on a reçu des appels, notamment une auditrice qui a traité sur les arbres fruitiers, notamment des pommiers, au cuivre et à l'huile végétale. Mais malheureusement, il y a encore des bestioles, alors que faire ?
Oui, que faire? Alors bien sûr, l'huile minérale, elle aura pris tout ce qui était latent et dormant sur le végétal. Ça voulait en tout cas pas faire périr le puceron qui était déjà là. Et puis le cuivre, c'est vraiment un fongicide, donc il va en tout cas pas faire éternuer les pucerons. Pour se défaire de ces pucerons, il faudra soit intervenir avec un produit chimique, soit avec une eau de savon noir en aspersion sur le végétal. Parce que le puceron, à cette période, bien sûr, il est très virulent. Il se développe à la vitesse grand V, il pond. Vous avez 3-4 générations qui peuvent arriver. Après, vous avez les fourmis qui arrivent, parce que les fourmis, elles raffolent de l'excrément du puceron qui est sucré. Elles déplacent aussi les œufs dans le même laps de temps. Et puis, c'est la propagation générale. Donc, une intervention, elle est nécessaire. D'autant plus qu'on est au début du développement des nouvelles pousses de l'année. Et puis, une forte attaque de puces va vous faire une torsion totale de la nouvelle pousse qui sera difficile de maintenir après dans les tailles futures pour une formation standard de votre fruitier. Donc, il est important d'intervenir vraiment après, choisir le principe soit du chimique, soit de l'eau de savon, en tout cas un des deux produits.
Si on utilise des produits chimiques, est-ce qu'il y a certaines précautions à prendre quand même pour que ça n'abîme pas, enfin, ça fasse pas du mal à l'arbre fruitier ?
Non, l'arbre fruitier risque rien, c'est plutôt vous. Donc, des gants, être vigilant au niveau de la bouillie, donc du produit que vous utiliserez. Si vous en reste, vous avez meilleur temps de retraiter deux fois votre fruitier que de balancer ça dans les eaux sales. Mais au niveau fruitier, non, il n'y a pas de souci. Après, si lors de l'intervention, vous voulez remettre encore un petit coup de fongicide pour justement éliminer les oïdiums, les rouilles qui peuvent arriver, du moment que vous intervenez, ça vaut la peine. Dans les produits fongicides, il y a des produits nature qui fonctionnent à merveille, qui ne coûtent pas très cher, et puis ça peut vous garantir vraiment un super végétal.
On vous le disait tout à l'heure, vous avez également le choix du SMS pour envoyer vos questions à Jean-Pierre Ribaud. Vous le faites au 939 et Nat d'Auvergnier a posé deux questions via SMS. La première, la voici. Quand ramasse-t-on la rhubarbe pour la consommer ?
Bien, bonjour Nat. C'est vraiment cette période-ci qu'on récolte la rhubarbe parce qu'au-delà, elle devient très dure, elle devient presque indigeste. Alors, on garde la chance des nouvelles pousses. Et puis voilà.
Et puis, il y a une deuxième partie à cette question. Enfin, ça concerne un autre problème. Elle a des prunes, des petites prunes du président, et il y a des taches noires dessus. Et elle demande justement quelle maladie ça peut être.
Ouh, la question est... Et pas très clair. Si c'est des petites taches noires à cette période-ci, c'est un parasite qui est déjà venu le perforer. Et puis là, elle peut déjà plus rien faire parce que ce fruit, il va de toute façon tomber. Si c'est des taches noires plus tard dans la saison, moi je ne pense pas. C'est certainement à cette période qu'elle a eu cette attaque. Donc elle peut plus rien faire.
Parce que les prunes, c'est pas deux saisons. En fait, c'est plus tard normalement.
Alors oui, mais la prune, elle est déjà en formation, on est d'accord. Et puis, vous avez des attaques à cette période, justement, de parasites qui viennent, puis qui pondent dans ce petit fruit en développement pour y pondre un œuf. Et puis, du moment qu'il est piqué, il va de toute façon tomber, elle ne pourra pas récupérer son fruitier. Si pour l'année prochaine, elle veut, il faut traiter tout de suite après floraison, mais surtout pas sur floraison, parce qu'on intervient avec, justement, un insecticide. Et puis, si vous venez avec un insecticide sur une partie du végétal qui est encore en fleur, ce sera l'abeille qui va périr, c'est dommage.
Jean de Bonfol a ressemencé sa pelouse le 13 avril et il se demande maintenant quand est-ce qu'il peut épandre de l'engrais dessus.
Oui, eh bien Jean, nous on le sème tout de suite après le semis. On a des engrais starters de Prismi. Quand on met en place la semence, on met directement l'engrais. Donc c'est le gros moment de le mettre. Vous dites autour du début, non, du 13 avril. Mmh. Oui, c'est le gros moment de le mettre maintenant, et puis peut-être de l'arroser, parce que d'ici, depuis là, on n'a pas eu beaucoup d'humidité au niveau des tombées de la pluie. Et puis, s'il n'arrose pas, ben, la semence, elle va germer, elle va périr au niveau du sec qui se fait maintenant. Donc, voilà, arroser et mettre de l'engrais de suite.
Il n'y a pas de risque que ça brûle le gazon?
Non, ça dépend de la densité à laquelle vous épandrez votre engrais. Il faut l'étendre, j'imagine bien qu'il n'a pas un semoir à engrais, donc une fois son engrais dans le bidon, il faut lancer très loin l'engrais pour éviter les arcs de cercle foncés, clairs, foncés sur votre pelouse. Si vous lancez très très loin votre engrais, il va être épandu nettement plus uniformément, et puis peut-être faire des passages, on croise comme ça, il n'y a pas ce risque de verre très foncé où il y a beaucoup trop d'engrais, et puis où il n'y en a pas, qui va être tout jaunâtre.
Au niveau des semences donc de gazon, combien de temps ça prend pour que ça reprenne un gazon?
À cette période, si on a une super période humide derrière un semis, ça peut être que 2-10 jours. Mmh. Et puis là, on n'a jamais de problème parce que le gazon, il est tellement virulent, d'autant plus qu'on lui met de l'engrais, que la mauvaise herbe, elle se trouve étouffée au démarrage. Vous aurez quand même un petit peu de l'annuel dedans qui va venir, principe de la moutarde, de la chénopode. Mais ces mauvaises herbes-là, elles ne vont de toute façon pas supporter la tonte parce que c'est une annuelle et puis au premier passage de la tondeuse, elles périssent. Par contre, si on a une période très sèche maintenant qui arrive avec des semis à cette période, s'il n'est pas arrosé, eh bien ça peut aller 15 jours, 3 semaines. Et puis là, vous avez les mauvaises herbes qui partent en germance. Et puis, elles vont plutôt vous étouffer, elles, la semence de votre pelouse. Puis après, vous aurez des résultats négatifs sur la pelouse.
Jusqu'à quand, au niveau de la période, on peut semer de la pelouse?
Mi-mai. Mi-mai. Au-delà, ça devient dangereux. Parce que après, même si vous arrosez votre pelouse, arrivé début juin, si vous avez des températures caniculaires qui arrivent, malgré un arrosage abondant, faut comprendre que sur la période de 11h à 3h de l'après-midi, une semence qui est en germance, elle est très très frais, elle est très fragile. Et puis si elle se fait brûler, le pédoncule qui sort de la semence, eh bien cette semence, elle est perdue. Puis ça vous fait des semis qui sont vraiment très, très éparses. Et puis personne n'est content, ni le client, ni le professionnel. C'est des sources à problème.
On a reçu un SMS de Muriel à l'instant qui nous dit qu'elle a quelques feuilles de framboisier qui ont commencé à jaunir. C'est des framboisiers qu'elle a plantés récemment. Pourquoi et est-ce normal?
Bonjour Muriel. Oui, ce qui peut arriver chez la framboise, c'est que vous êtes dans un sol un peu trop calcaire et puis elle réagit par une chlorure, comme on appelle. Il faut certainement faire un arrosage avec une chalade de fer, ce qui va vous acidifier un petit peu le sol, ou en tout cas lui épandre quelques balles de tourbe, ça dépend de la densité de votre plate-bande de framboise. Mais la framboise est une plante qui supporte pas trop bien le calcaire, plutôt le terrain acide, les terrains frais en plus, bien sûr. Donc la tourbe, elle va vous amener de l'acidité, elle va vous garder l'humidité au sol, elle va encore éviter l'arrivée de trop de mauvaises herbes au niveau des pieds de framboise. Je peux lui conseiller que ça, puis peut-être un peu arroser.
Merci Jean-Pierre, il ne vous reste que quelques minutes encore pour poser toutes vos questions à Jean-Pierre Ribaud, paysagiste à Queuves. Ça se passe au 0901 70 20 20 pour 36 centimes la minute, ou bien également par SMS comme Muriel au 939, vous tapez le mot jardin, un espace, puis votre question. Il y a aussi le formulaire internet sous l'onglet émission questions aux jardinières.
Les jardinières.
Pierre-Alain de la Brévine a composé le 0901 70 20 20 pour poser une question à vous, Jean-Pierre Ribaud. Bonjour Pierre-Alain.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Excusez-moi, j'aurais un petit renseignement. J'ai des chardons dans mon jardin.
Oui.
Et alors je vais voir des fois qu'est-ce qu'on pourrait faire, disons, pour les enlever, qu'ils crevent, quoi.
Oui, c'est pas tout simple. Si vous ne voulez pas utiliser de produits phytosanitaires, il faudra les arracher au fur et à mesure qu'ils poussent. Sinon, vous ne voulez pas vous en sortir. Sinon, après, il y a quand même des produits sélectifs qui arrivent à vous les faire périr. Je ne peux pas vous donner de nom de produits comme ça à l'antenne, mais vous les trouvez ça dans les grandes surfaces sans souci.
Ah d'accord, alors oui, c'est ce qu'il faudrait faire, quoi.
Oui,
parce que là, j'en ai beaucoup, j'en ai pas mal, quoi.
Oui, alors vraiment les arracher. Ça, ouais. Ou bien alors si vous pouvez condamner une partie du potager, ben justement, comme on a dit tout à l'heure avec la bâche sur la pelouse, vous lui mettez une bâche plutôt lourde, noire, foncée, avec des carrelets ou des lattes tout autour, pour les faire étouffer dessous. Voilà, ça c'est une solution.
Ah d'accord, je comprends, alors, je vous remercie beaucoup, alors.
Merci, Pierre-Alain.
Pas de problème.
Alors, tout bon et toute bonne journée, bon week-end à vous.
Merci beaucoup.
Merci, Roi.
Et nous avons reçu également une question de Nicole de Reconvilliers qui parle fraises. Hein. Elle a planté des fraises gariguettes, nous dit-elle. Est-ce qu'il est nécessaire de mettre de la paille sur la terre ou est-ce qu'on peut mettre du géotextile à la place de la paille? Et si oui, pourquoi et qu'est-ce que vous lui conseillez, Jean-Pierre?
Oui, alors bien sûr qu'on peut mettre soit de la paille, soit de la bâche. Si c'est la bâche, il faudra se prémunir de faire des trous assez grands, parce qu'au développement futur du plant de fraisier, il faut qu'il y ait justement assez d'espace dans cet espace-là. L'avantage de la bâche ou de la paille, bien sûr que ça va éviter toutes les repousses de mauvaises herbes. Ça va surtout garder aussi l'humidité au niveau du sol. Puis la fraise, c'est une plante plutôt de sous-bois à la base. Donc elle apprécie vraiment le frais. Donc pour toutes ces raisons-là, ou la paille ou la bâche, c'est indispensable. Après, c'est peut-être aussi plus facile si vous avez une variété de fraises qui fait énormément de stolons, donc la repousse du nouveau fraisier. Si vous avez une bâche, à l'automne, vous prenez un ciseau, un sécateur, vous faites le tour de vos plantes fraisiers, puis vous enlevez tout ce qui est ces nouvelles repousses. Si vous mettez rien du tout, si vous mettez la paille, votre plate-bande de fraises, à un moment donné, elle sera beaucoup trop dense parce que vous n'arriverez pas à enlever toutes les nouvelles repousses. Parce que dans la paille, ces nouvelles repousses, ces stolons, ils vont pouvoir raciner facilement, puis après, ce sera un peu la gabier au niveau de la plate-bande.
On a Solange de Tramelan qui nous a écrit « J'ai planté un kiwi depuis l'année dernière et à la base, j'ai eu deux nouvelles pousses de tiges en plus du pied principal. Dois-je les tailler ainsi que les pousses de l'année dernière ?»
Oui, bonjour Solange. J'espère que vous avez déjà planté deux kiwis parce que si vous n'en avez planté qu'un, vous n'aurez jamais de fruits. Il faut savoir que les kiwis sont des plantes monoïques, ça veut dire que vous avez les plantes mâles et les plantes femelles. C'est pas comme si je prends l'exemple du noisetier où vous avez les deux sexes sur le même plan. Donc il faut absolument des kiwis pour avoir des fruits plus tard. Et puis au niveau de la taille, ça dépend un peu du futur, de ce que vous voulez faire de votre kiwi. On pourrait se dire, on le veut en dense, très dense au niveau de la base, et puis là elle peut laisser ses ramifications. Ou bien alors se dire, non, je veux plutôt avoir une longue pousse qui va se développer sur un fil, sur une façade, sur une clôture. Et puis là, on sélectionnerait peut-être qu'une des belles pousses, et puis l'autre, on la pincerait, ça veut dire on la couperait à 5-6 cm du démarrage sur le plan, pour favoriser une pousse, pour ne pas avoir trop d'enchevêtrement futur.
Comment on reconnaît si c'est un kiwi mâle ou femelle, et comment on les met ensemble?
Alors, comment on reconnaît, c'est au niveau de la fleur, hein, si vous avez que des étamines ou que des pistils, eh bien c'est ce qui va vous définir les plants mâles, donc les étamines, et puis les pistils, les plants femelles. Et puis au niveau du mariage entre les deux, c'est une question de distance, de 1,50 m, 2 m. Après, c'est les insectes qui vont de toute façon faire le travail au niveau de la pollinisation.
On a reçu une question par SMS. J'ai une haie de touya, les branches sont recouvertes de matière morte, des propres branches. Est-ce qu'il faut secouer et faire descendre cette matière inerte et déblayer le sol qui est recouvert de cette même matière sur environ 10 cm? La haie avait quelques problèmes à un certain temps, est-ce que cela explique cette matière? Alors Jean-Pierre, pouvez-vous aider notre auditeur?
Oui, bien sûr. Non, je ne pense pas que ce soit nécessaire de secouer et puis d'enlever ce matériel qui se trouve certainement à l'intérieur de la haie. Si vous secouez votre haie pour essayer d'enlever tout ce matériel qui est sec, il y a de fortes chances que vous vous cassiez un peu ou faire de la déprédation sur l'extérieur de la haie. Selon l'état de la haie, si c'est déjà une vieille haie, ce sera difficile de la régénérer dans le futur pour avoir quelque chose de correct. Moi, je ne toucherai pas ce matériel sec qui se trouve latent dans l'espace aérien de cette haie. Après, au niveau du sol, on ramassera peut-être ce qui est à l'extérieur du dessous de la haie. Mais moi, je laisserai ce qui se trouve sous la haie. Parce qu'il faut savoir que le thuya, c'est une plante qui n'apprécie pas du tout le sec. On a vite beaucoup de dégâts de sec sur le thuya. Donc ce mulchi que vous avez justement au niveau du sol va conserver une certaine humidité qui va faire que votre haie va mieux se porter. Moi, je n'enlèverai pas ce matériel.
Nous avons reçu un téléphone de Suzanne de Moutier. Elle a préféré que je pose la question pour vous, Jean-Pierre, pour elle plutôt, à vous. Elle a deux grands rosiers et elle avait eu des pousses avec des bourgeons qui ont séché, qui ne se sont pas ouverts. Elle a ensuite taillé cela, mais il n'y a toujours pas de nouvelles pousses et pas de bourgeons. Alors, à quoi cela est dû? Et puis, qu'est-ce qu'elle peut faire pour son rosier?
Oui, je ne comprends pas vraiment la question. Donc, ce rosier, il ne démarre pas du tout ce printemps, c'est ça?
C'est ça. En fait, elle a eu des pousses, elles ont séché, elle a taillé ce qui a été séché, et puis il n'y a pas de nouvelles pousses.
Oui, je pense qu'elle a un problème au niveau des racines. Ça veut dire que ce rosier, ce printemps, il a pu démarrer avec les réserves latentes qui se trouvaient dans l'espace aérien au niveau du bois. Et puis, il n'y a plus d'alimentation au niveau des racines. Alors, je chercherai le problème au niveau de la racine. Soit un champignon, soit le collet de greffe qui a raciné. Ils étaient peut-être plantés un peu trop profond. Et puis, on sait que quand on fait des plantations trop profondes, vous avez la greffe qui s'affranchit, puis vous perdez l'efficacité du porte-greffe. Donc, il peut y avoir ce problème-là, ou alors un rongeur, mais c'est certainement que ces rosiers, ils ont péri. Je ne pense pas qu'elle va pouvoir les récupérer, parce que là, en ce moment, ils devraient être plein de pousses. S'ils ont démarré que ce printemps, puis après péri, c'est vraiment que sur la réserve du bois qui se trouvait latent que ces bourgeons ont pu démarrer, puis au-delà, ben, il n'y avait plus d'alimentation.
Est-ce que ça peut être un problème d'emplacement ?
Non. Non, de toute façon pas, non. Champignon peut-être, affranchissement du collet de greffe, oui. Rongeur peut-être, ça faut observer sur le terrain.
Bien, merci Jean-Pierre Ribaud d'avoir partagé ce moment avec nous ce matin. On vous souhaite un beau week-end printanier et surtout un bon week-end de fête de Keuve. Hein.
Oui, c'est gentil. Oui, d'ailleurs, hier soir j'étais puni, j'ai pas pu faire la fête parce que ce matin je devais être apte chez vous.
Alors merci
tous les auditeurs, je dois venir à Keuve ce soir pour une fondue, une raclette ou je ne sais pas quoi, effectivement.
Et bien, l'appel est lancé. Les jardinières, évidemment, on va profiter de leur week-end prolongé la semaine prochaine pour vous aider à jardiner toujours entre 7h et 8h.
Et pour avoir la tête libre et profiter de votre congé, envoyez-nous déjà maintenant votre question par SMS au 939 en tapant le mot jardin, un espace ou par formulaire internet. Bon week-end.
Bon week-end et bonne fête de Keuve.
7h, 8h, les jardinières.